La déflagration annoncée depuis plusieurs jours pour l'Église qui est en France est bien produite en ce mardi 5 octobre avec la publication du rapport de la CIAZ. Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
C'est un jour noir pour l'Église qui est en France aujourd'hui.
Bien sûr, hein, on est à la fois dans la honte, la gratitude envers la commission indépendante qui a accompli un travail professionnel remarquable, gratitude aussi vis-à-vis des victimes qui ont pu être entendues, exprimer leur souffrance à travers aussi leur colère que nous avons besoin d'entendre, et puis en même temps un effroi devant le nombre estimé, bien sûr, puisque c'est une estimation, comme vous le savez, parce que toutes les victimes, tant s'en faut, ne sont pas manifestées, mais voilà, donc on est quand même dans la sidération et l'effroi.
Alors les chiffres, parlons-en, donc c'est combien de personnes qui ont été abusées par des clercs depuis 1950 ?
Alors si on compte la fameuse enquête faite par l'INSERM et l'IFOP, et l'INSERM qui a étudié ça à partir des lois de la statistique, sur 28 000 personnes interrogées, adultes, à qui on a posé la question de savoir si elles avaient été sexuellement abusées avant l'âge de 18 ans, eh bien, on arrive à peu près à 5 500 000, tout milieu confondu. La plupart, hélas, dans le milieu familial ou amical proche. Et pour ce qui est de l'Église, on estimerait à 216 000, avec une fourchette de plus ou moins 50 000, comme a dit M. Sauvé ce matin dans son exposé, de victimes de prêtres ou religieux. Et si on augmente, si on ajoute ceux qui auraient été victimes de laïcs en mission ecclésiale, donc de manière plus récente sans doute, eh bien il faut aller jusqu'à 330 000.
Rappelons que ce rapport, c'est un rapport demandé par l'Église catholique en France.
Oui. C'est une décision prise par les évêques, justement, pour avancer davantage, non seulement dans la compréhension de l'ampleur du phénomène, mais aussi dans la reconnaissance et la prise de conscience de la souffrance des victimes. Donc nous avons pris comme première décision, en 2018, au cours de l'Assemblée plénière de novembre, eh bien de constituer une commission indépendante que nous avons confiée à M. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État.
Vous avez tenu à organiser à l'évêché aujourd'hui, 5 octobre, une conférence de presse où vous voulez battre le fer tant qu'il est chaud. Il n'est plus question pour l'Église et les évêques aujourd'hui de se dédouaner de ces affaires d'agression sexuelle.
Alors il est évident que, je pense, ça fait un moment que l'Église cherche à ne pas se dédouaner. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait sans doute insuffisant et l'attention aux victimes est arrivée progressivement. Mais il est évident pour moi qu'après cette onde de choc, qui évidemment va frapper non seulement l'opinion publique, mais aussi le peuple chrétien, c'était important qu'en tant qu'évêque, je prenne tout de suite la parole pour dire le ressenti de l'évêque que je suis et la honte qui est la mienne et l'effroi aussi, comme l'a dit aussi Monsieur de Montlemaufort ce matin à Paris.
Le rapport préconise des mesures à prendre dans l'Église. Vous n'avez pas encore, bien sûr, eu le temps de voir toutes les mesures qui sont préconisées, mais est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un peu ?
Alors ce sont pas tant des préconisations que des recommandations. C'est évident que la CIAS n'a pas l'expertise pour nous donner exactement notre marche à suivre. Comme l'a dit M. Sauvé, notre travail est terminé. Nous passons le relais à l'Église. C'est à vous maintenant à continuer. Voilà les recommandations que nous vous faisons après avoir entendu les victimes, après avoir analysé les données. C'est à vous maintenant de voir. Alors évidemment, les préconisations sont de plusieurs types. Il y en a une certainement sur laquelle on va se pencher. C'est celle sur laquelle on avait déjà réfléchi depuis 2018, qui est celle de la reconnaissance de la souffrance et du moyen concret de la reconnaître. Et on avait abouti à la décision, parmi les 11 que nous avions prises en avril 2021, bien de constituer un fonds de dotation qui serait abondé volontairement par les évêques, les prêtres et les fidèles qui le voudraient bien, un fonds de dotation nationale dans lequel on puiserait une contribution financière qui serait attribuée aux victimes qui le souhaiteraient, au titre de leur reconstruction, par une commission indépendante d'attribution de ce fonds. Il semble que la recommandation de la CIAS nous invite à aller un peu plus loin dans la compréhension de la responsabilité civile des évêques par rapport aux victimes, et donc peut-être d'affiner cette contribution dans le sens d'une peut-être davantage d'une indemnisation. Mais ça, je ne peux pas m'engager pour les évêques qui vont collégialement en décider lors de la prochaine assemblée plénière de début novembre.
Toujours lors de la conférence de presse de ce 5 octobre, vous avez dit que vous aviez pris l'ampleur de la souffrance des victimes en accompagnant vous-même des victimes. Et vous avez eu cette phrase « Il a violé non seulement mon corps, mais aussi mon âme et m'a séparé de Dieu ». Vous avez vraiment découvert la profondeur et la gravité de la souffrance des victimes en accompagnant des victimes.
Alors vous voyez intellectuellement, on prend toujours la mesure du drame, parce que ça fait longtemps que l'on en parle et qu'il y a beaucoup d'études psychologiques et autres qui sont faites, et l'Église s'est coltinée à l'affaire depuis longtemps, déjà depuis quelques années. Mais je crois qu'il faut avoir vraiment entendu concrètement une victime, exprimer par son témoignage sa souffrance existentielle, la destruction de son être profond, de son âme précisément, parce que souvent ce sont des victimes la plupart du temps qui sont dans l'Église, hein, pour pouvoir prendre la mesure quand même, c'est vrai, concrètement de cette souffrance et désirer l'accompagner. Moi je pense qu'il y a une sorte de compagnonnage fraternel qui s'est même établi avec ces victimes, que ces quelques victimes qui sont venues me porter leur témoignage.
Comment en a-t-on arrivé là dans l'Église, puisque l'Église c'est quand même l'évangile de la vie, la place des enfants, la protection du plus faible? Comment on a pu en arriver là? Comment les évêques ont pu fermer les yeux, voire carrément cacher certaines agressions sexuelles?
Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure au cours de la conférence de presse, c'est évident que l'Église, comme toutes les institutions dans la société, ont mis beaucoup de temps à prendre la mesure de ce drame, qui a été souvent minimisé dans la société, dans les familles. Ça fait partie de ce qu'on appelle les secrets de famille, hein, vous le savez bien. Et donc, dans l'Église, on n'a pas voulu regarder les choses.
On savait pourtant que quand il y avait un problème avec un prêtre, il disparaissait, on le mettait dans un autre diocèse plus loin. Alors, on se doutait quand même que...
Complètement. Je pense qu'on a, tout à fait mal agi, hein, ce que l'on connaît, mais ça fait longtemps qu'on ne le fait plus, heureusement. Mais on a déplacé les prêtres parce qu'on n'avait pas saisi, comme on l'a saisi aujourd'hui, grâce aussi au progrès de la psychologie et de la psychiatrie, quand il ne faut pas oublier ça, l'ampleur du drame qu'un crime ou un délit sexuel sur un enfant peut représenter.
Est-ce que vous pouvez comprendre la colère des chrétiens, de certains chrétiens, après, en découvrant ces chiffres, de voir que l'institution, en fait, les responsables ont laissé faire ou ont voulu cacher la vérité? Même certains prêtres qui sont salis alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, ils sont en colère, certains, de voir que les évêques, en fait, quand ils étaient en responsabilité à ce moment-là, soit ils ont fermé les yeux, soit ils ont minimisé.
Alors moi, je ne veux pas dédouaner les évêques, hein, en effet, dans leurs responsabilités, dans les décennies passées, même si il ne m'appartient pas de frapper sur la poitrine de mon voisin ou de mes prédécesseurs, mais je pense quand même que c'est aussi souvent une responsabilité qui est partagée. Hein, y a des familles qui ne voulaient pas qu'on en entende parler, qui ont refusé le témoignage de leurs enfants. Y a des prêtres même qui ont préféré soutenir un de leurs confrères. Encore une fois, je leur jette la pierre à nul, ni à l'évêque, ni aux prêtres, ni aux familles. Je pense que c'est un fait de société, hein, qui nous a dépassés et qui aujourd'hui nous revient à la figure par un effet boomerang.
Dans notre diocèse de Bayonne, Escar et Oloron, combien de prêtres sont concernés? Combien y a-t-il de prédateurs sexuels dans les prêtres du diocèse de Bayonne, Escar et Oloron depuis 1950?
Alors autant qu'on puisse en juger à partir des archives du diocèse, qui sont quand même assez lacunaires, et les signalements qui nous ont été faits par l'intermédiaire de notre cellule d'accueil, je compte depuis 1950 13 prêtres religieux.
Combien de victimes?
Et les victimes qui seraient recensées, hein, grâce aux témoignages qui ont été donnés, grâce aux affaires judiciaires qui ont été qui ont traité ces cas, on arrive à peu près à 25 victimes.
Vous comptez amplifier le travail de la cellule d'écoute des victimes dans le diocèse?
Je pense qu'il faut la structurer encore mieux pour qu'elle soit plus outillée pour aider, hein, les victimes dans leur travail de reconstruction et de réparation.
L'Église aujourd'hui a pris un gros coup, elle va avoir du mal à se relever. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chrétiens pratiquants, réguliers, par exemple à tous les jeunes qui étaient au congrès mission le week-end dernier à Toulouse? Bon, forcément, une nouvelle comme ça, c'est pas facile à entendre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chrétiens?
À vue humaine, c'est sûr que c'est désastreux et que ça va certainement provoquer un phénomène de défiance, davantage encore. Mais moi, je m'établis pas à vue humaine, je m'établis dans la la foi et dans l'espérance. Je pense que à vues humaines, il faut qu'on prenne tous ensemble les moyens de rendre notre Église plus sûre. Je crois que c'est important que les communautés chrétiennes accompagnent leurs prêtres, hein, que les prêtres se sentent aussi soutenus par une communauté qui est une famille, parce que les prêtres, on les a peut-être trop isolés dans leur bulle sacralisée, et dans le regard des catholiques, le prêtre était tellement mis sur son piédestal qu'on oubliait qu'il est aussi un homme faible, et lui-même peut-être était dans une posture qui ne reconnaissait pas sa faiblesse, et donc on a besoin de communautés plus fraternelles, où les fidèles et les prêtres se sentent plus engagés fraternellement dans la vie de l'Église, de manière à ce que on minimise ce genre de drames qui peuvent toujours arriver.
Merci beaucoup, Mgr Hayet.
Voilà, merci.
Des propos recueillis à l'issue de la conférence de presse qui s'est déroulée à l'évêché de Bayonne le mardi 5 octobre 2021.